Mon nom est Michel Pion, actuel président de l'Association humaniste du Québec, et bienvenue au balado humaniste. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'avoir avec nous M. Michel Lincourt. M. Lincourt a un cheminement absolument remarquable, architecte, mais également docteur en philosophie. Durant sa vie professionnelle, il a pratiqué l'architecture, l'urbanisme, et a également enseigné à l'université. Depuis son retrait de la vie professionnelle, il s'est impliqué dans divers mouvements sociaux, entre autres à l'Association humaniste du Québec et à la Société de philosophie. Il a également fondé l'Institut de la liberté de conscience au Canada. Le mouvement laïque québécois lui a d'ailleurs octroyé son prix Condorcet-Desaulles cette année pour son implication et son travail en faveur de la laïcité au Québec. Il est aussi chercheur senior à la chaire UNESCO-UQAM de philosophie. Il a également publié un roman en 3 tomes, intitulé « Mémoire de lumière » et de nombreux essais, dont un en particulier, dont nous allons discuter aujourd'hui, « La cacocratie ».
Alors, bonjour M. Lincourt.
Bonjour Michel.
Et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et en passant, toutes nos félicitations pour le prix Condorcet-Desaulles qui vous a été attribué cette année. Je vous ai invité surtout pour que l'on discute de votre essai dont le titre complet est « La cacocratie » ou « La démocratie assassinée par le mensonge » qui, je dois dire, moi personnellement, m'a énormément impressionné lorsque j'en ai fait la lecture. C'est un ouvrage monumental qui couvre une grande variété de sujets contemporains. J'ai peine à imaginer le travail de recherche qu'il a fallu se farcir pour obtenir le résultat. On pourrait en discuter pendant des heures tellement il y a de sujets. Mais vous commencez votre essai en énonçant clairement votre philosophie, qui est fondée sur celle des Lumières, philosophie dont se réclament les humanistes. Mais avant qu'on commence, j'aimerais juste que vous nous expliquiez pourquoi vous avez décidé d'écrire cet ouvrage.
J'ai plusieurs années derrière moi d'observation de la politique, autant locale que nationale, qu'internationale, et j'arrive à la conclusion que la démocratie souffre énormément. Ce n'est pas qu'elle soit complètement morte, inexistante, c'est que ceux qui ont charge de faire marcher, si vous voulez, la démocratie, c'est-à-dire ceux qui sont élus, nos représentants, ils ont démissionné. Moi, j'estime que c'est depuis le milieu des années 70, plus précisément en 1973, que a commencé la démission, petit à petit, petit morceau par petit morceau, des élus au profit de toutes sortes de monde. On en reparlera tout à l'heure. Alors, mon but, c'était d'essayer de réanimer cette démocratie qui était envieuse parce que ceux qui sont chargés de la faire fonctionner ne le font pas. Alors, c'est pour ça que je suis retourné à l'université, à la chaire UNESCO-UQAM de philosophie pour écrire cet essai. Et le but de cet essai, c'est justement pour essayer de rénover la pratique de la démocratie. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit le livre. Il faut comprendre, pour comprendre ça, pour comprendre ce phénomène de la désintégration de la pratique de la démocratie, il faut observer un peu la société qui est la nôtre. Et la société qui est la nôtre, si vous l'observez un petit peu, c'est qu'elle est composée d'individus largement disqualifiés, séparés les uns des autres, hein? On est tous cachés derrière notre téléphone portable, derrière notre tablette, derrière notre écran d'ordinateur, et nous faisons nos choses de cette façon-là. Et c'est rendu tellement grave que vous vous promenez sur le trottoir, puis tout le monde se balade en pitonnant sur son téléphone. Et si vous pénétrez à l'intérieur des messages qui sont transmis à travers ces écrans, vous vous rendez compte qu'à tous les 10 minutes, à tous les 15 minutes, il y a un message commercial qui répète sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse, que ton bonheur est attaché à la prochaine, au prochain achat que tu feras pour une babiole quelconque, pour peu importe ce que tu achètes. L'important, c'est d'acheter. L'important, c'est de dépenser l'argent que tu as au profit de vendeurs de tous ces gadgets. Alors, c'est ça, la religion qui pénètre, et ça devient un lavage de cerveau extrêmement sévère, c'est la religion du consumérisme. C'est qu'il faut toujours, 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 toujours acheter. Et ceci entraîne des conséquences extrêmement graves. Premièrement, la mise en place de sociétés multinationales qui te vendent tout ça. Et cette philosophie qui consiste à toujours vouloir augmenter, hein, augmenter le profit, augmenter le volume de tes ventes, augmenter les nouveaux gadgets que tu offres, etc., dans un monde qui est par définition fini, on est sur la planète Terre et les ressources ne sont pas infinies, les ressources de la Terre sont finies. Cette philosophie basée sur le consumérisme et mise en œuvre par ces réseaux sociaux basés sur l'Internet et les réseaux qui entoure la Terre et qui fait cette communication entre les individus, ben tout ça, ça n'a pas de sens. La conséquence, c'est que notre monde, notre humanité et notre planète, c'est en train de mourir avec la démocratie.
Ben, le mot « cacocratie », je pense, en tout cas, moi, je ne l'ai jamais vu nulle part ailleurs. Vous le définissez de la façon suivante, c'est une sorte d'oligarchie informe, anonyme, omniprésente, insidieuse, mensongère, nocive, criarde et abrutissante, qui se cache dans un brouillard informationnel pour mieux siphonner les richesses du monde. Et alors, c'est le régime politique qui nous gouverne aujourd'hui à notre insu. Ne sommes-nous pas en démocratie? Elle n'est plus qu'une façade. Et c'est un petit peu ça que vous parliez tantôt. Vous semblez carrément suggérer dans votre essai que dans les faits, nous ne vivons plus en démocratie. Qu'est-ce qui vous a amené à affirmer ça? Vous avez commencé à en parler un peu, mais...
Si tu observes un peu le monde autour de toi, les parlements, finalement, c'est-à-dire les assemblées, les représentants du peuple, nos élus, qui sont en principe, qui sont choisis pour nous représenter, puis faire les lois, puis définir les règles de notre vie en collectivité, ben les parlements, ils contrôlent plus rien. Par exemple, ils contrôlent pas la monnaie. Ils contrôlent pas le système économique. Tu sais, le néolibéralisme en économie, c'est le système qui prévaut présentement sur la planète. Puis dans les démocraties comme ailleurs, en Allemagne, aux États-Unis, en Angleterre, au Canada, etc. Mais à ma connaissance, il n'y a jamais eu de débat politique là-dessus. Au Canada, il n'y a jamais eu de débat politique, il n'y a jamais eu de vote pour dire si oui ou non on était d'accord pour avoir le néolibéralisme comme étant notre système économique. Ouais, zéro débat, c'est imposé. Les multinationales, prenons une section de multinationales qui gèrent les réseaux sociaux, qui gèrent l'Internet, les Google, les Facebook de ce monde. Tous ces gens-là qui ont une influence considérable sur nos vies, ils travaillent sans absolument aucun règlement. Il n'y a pas souvent des débats démocratiques au Parlement. pour mettre un frein sur l'action des GAFA. Prends les bourses, où tu achètes, tu vends des actions. Ça échappe à tout contrôle. Le Parlement du Canada ne passe pas de loi pour contraindre les bourses. Je donne un exemple complètement trivial, c'est l'intérêt composé. Est-ce qu'on peut analyser l'intérêt composé pour déterminer qui sont les gagnants puis qui sont les perdants de cette pratique qui nous est imposée? Personne n'a voté sur le bien fondé de l'intérêt composé dans le système économique, et pourtant il est là. Et pourtant, je pense qu'il y a bien plus de perdants que de gagnants, puis les perdants sont les pauvres, puis les gagnants sont les riches, comme tout le système. Et si tu observes tout ce système qui nous est imposé, puis tu te rends compte qu'il y a d'énormes inégalités économiques, qu'il y a 1% de la population planétaire qui contrôle plus que de la moitié des ressources de la planète, des ressources de toutes sortes, des ressources financières, par exemple. Tu te rends compte que nos démocraties font rien, ils font rien. C'est que au-dessus, normalement, en démocratie, le peuple est souverain. C'est comme ça que ça marche. Il y a le peuple encore constitué qui est souverain, qui est maître de sa destinée et qui fait les lois et les règlements pour mieux vivre en collectivité. Puis, comme on est trop nombreux pour se réunir, pour pratiquer la démocratie directe, on élit, on choisit à tous les 4-5 ans nos représentants qui se réunissent au Parlement à Ottawa, à l'Assemblée nationale à Québec, l'Assemblée nationale en France, commune à Londres. Mais dans la vraie vie, il y a au-dessus de ces parlements une espèce de nuage qui est un pouvoir oligarchique. C'est la petite phrase que tu as citée, c'est vraiment ça. Et c'est sur ces gens-là qui gouvernent. C'est eux qui ont le pouvoir, ce ne sont plus les parlements. La crise du COVID a illustré ça. Tu vois, la crise du COVID a illustré que 20 ans avant, petit à petit, les pharmaceutiques canadiennes, si on prend cet exemple, ont quitté le Canada pour aller en Chine, pour aller en Asie, parce qu'ils faisaient plus de profits, parce qu'il y avait moins de réglementation, parce qu'il était libre de faire un peu ce qu'il voulait comme il voulait, parce que la loi du libéralisme économique, du néolibéralisme économique, c'est toujours de maximiser le profit, d'abord et avant tout, par-dessus tout le reste. Alors, ils ont quitté, Michel, mais ce que je vais terminer ma phrase là-dessus.
Ouais.
Ils ont quitté, puis arrive la COVID. Et qu'est-ce que fait le gouvernement canadien? Il se rend compte qu'il n'y a plus de laboratoire au Canada pour faire des vaccins puis des médicaments, ni même des masques, ni même des chemises de protection, des bons, etc. Ils sont obligés d'acheter ça sur le marché international à prix d'or. Tu vois? Et les pharmaceutiques, ils ont le gros bout du bâton. Ils disent au Canada, tu paies ce que je te demande, ou ben non, tu vas passer le 62e dans la livraison des vaccins si jamais on en trouve. Alors, le Canada, pour pouvoir être parmi les premiers, il met des centaines de millions pour financer le complément de la recherche ou la recherche entière sur tel type de vaccin, tel type de vaccin, puis pour rassurer qu'ils seront parmi les premiers. Puis là, tu ne mets pas tous les œufs dans le même panier, tu fais la même chose avec un deuxième laboratoire, un troisième laboratoire, mais ils sont tous pareils, ils sont tous des multinationales qui décident si tu vas avoir le vaccin avant ou après. Israël a payé plus cher, ils l'ont eu en premier, tu vois. Bon, il y a certains vaccins, pratique plus nationale. Il y en a eu un en Angleterre, il y en a d'autres en Russie, il y en a d'autres en Chine, mais avec des résultats que je n'arrive pas à évaluer. Mais les vaccins dits internationaux, ceux de Pfizer, de BioNTech, compagnie allemande qui a fait les découvertes, Et ceux de Moderna, si on prend ces deux exemples-là, tu vois, c'est leur façon de faire. Ils ont vendu le vaccin des milliards de dollars. C'est vendu tellement que le simple citoyen au Canada, on vit en démocratie, d'après ce qu'on nous dit, il est incapable de savoir le détail de ces deals internationaux pour l'achat des vaccins puis l'achat des médicaments. Donc, on a des signes extrêmement puissants qu'on ne vit plus en démocratie. Ce sont ces gens-là qui gouvernent, qui sont vraiment à la tête. Et ces gens-là, pour gouverner, utilisent les réseaux sociaux, utilisent les médias, utilisent un certain nombre de journaux, utilisent, etc., là, tout le grand réseau de transmission d'informations. Et une part importante de cette information-là est mensongère. Et c'est ce que j'essaie de démontrer dans mon livre quand je dis que la démocratie est assassinée par le mensonge. C'est que j'illustre de très nombreux exemples dans tous les domaines de l'activité humaine où on ment systématiquement, en commençant d'ailleurs par nos élus, qui font semblant de mener la barque, mais qui ne le font pas. Si on prend la politique locale, tu sais, à propos de la biodiversité, puis à propos de la crise climatique, tous les politiciens de Montréal, puis dans l'est de Montréal, la main sur le cœur, te disent qu'ils sont sensibles aux préoccupations des citoyens qui crient que la crise climatique devient de plus en plus grave, puis il n'y a rien qui se fait. Et ils se font élire. Sur un discours qui vont être sensibles aux préoccupations, c'est les termes qu'ils prennent, les préoccupations environnementales de la population. Puis une fois élus, ils font le contraire. Donc, ils mentent systématiquement, tu vois. Puis les gars qui font de la publicité mentent systématiquement. Puis les financiers mentent systématiquement, tu vois, quand ils endettent la population. Tu vois, je peux continuer dans tous les domaines là-dessus. Alors, quand je dis qu'il y a au-dessus des parlements une oligarchie, bon, c'est composé de tous ces gens-là, hein, puis les plus importants, je pense, c'est les banques, les financiers internationaux.
Justement, dans votre essai, vous semblez dire que ça a commencé au début des années 70 pour le système économique mondial issu de Bretton Woods. Là, je vous cite dans votre essai. Bretton Woods, c'est quoi exactement?
Ben, il y a deux. Bretton Woods, c'est une entente nationale à la fin de la Deuxième Guerre mondiale en 1945 qui établit le système économique qui est du libéralisme, là, c'est sur la base de travaux d'économistes, aujourd'hui on dirait de droite. Ils ont créé le Fonds monétaire international et la Banque mondiale comme étant des organismes internationaux pour surveiller, encadrer et gérer ce système-là. Et ça s'est fait en 1945. Tout était basé, la monnaie de référence était la monnaie américaine, le dollar américain, la valeur du dollar américain était basée sur une valeur de l'or à 35 $ de l'once d'or. Et ça, c'était la base. Mais après la guerre, les Américains sont embarqués dans toutes sortes de dépenses idiotes, dont la guerre de Corée. Et ils étaient en train de faire faillite et donc ils ont changé le système par la suite de discussions quelque part en Europe, à Paris, à Bâle aussi, pour faire en sorte que le dollar cesse d'être accroché à une valeur fixe, le 35 $ valeur d'or. Et le dollar américain devient flottant, c'est-à-dire soumis aux aléas du marché par rapport aux autres devises. si bien que par rapport au dollar américain, il y a des devises qui ont grimpé, puis il y a d'autres, la plupart des devises ont baissé. Et ceci a ouvert la porte à la spéculation mondiale, qui est maintenant à hauteur de plusieurs milliards, qui est juste la spéculation sur les devises et les banques souveraines, comme la Banque du Canada, la Banque d'Angleterre, la Federal Reserve aux États-Unis, gèrent des comités de collusion. Il y a un réseau international de comités, il y a un comité canadien. C'est des représentants des principales banques, puis des agences de spéculation qui spéculent sur la monnaie. Mais il y a une deuxième chose qui s'est passée en 1973 où c'est extrêmement important, c'est que, si tu prends l'exemple de la Banque du Canada, la Banque du Canada a été créée dans les années 30 pour financer à coût d'intérêt zéro, disons, les travaux publics canadiens. La voie maritime du Saint-Laurent et la route transcanadienne, par exemple, ont été financées sur la base d'obligations vendues par la Banque du Canada, achetées par le gouvernement fédéral qui a, avec ça, payé les travaux, par exemple, de la voie maritime, et a remboursé, puis il n'y avait pas de frais d'intérêt là-dessus, il remboursait le capital, je pense, de petits frais de gestion. Ça a marché comme ça. En 1973, les banquiers de la Banque des règlements internationaux, puis si tu veux, je t'explique quelle est cette banque, sont venus voir les cabinets, les premiers ministres et les ministres des Finances, les principaux pays qui formaient le conseil d'administration de cette Banque des règlements internationaux, pour dire « cette façon de faire est mauvaise ». Et nous vous suggérons une bien meilleure façon de procéder qui consiste à faire financer à taux d'intérêt plutôt élevé les travaux plutôt que faire financer ça par le gouvernement à taux d'intérêt zéro. Je vous propose de faire financer ça par les banques privées à taux d'intérêt élevé. Et les banques centrales vont financer les prêteurs privés à taux d'intérêt plutôt bas. Donc les banques privées vont faire un profit là-dessus, et on va décharger les bureaucraties de la gestion des travaux publics et on va donner ça aux banques. Puis tout le monde a dit que c'est une excellente idée, puis on a fait ça. Et on a fait ça partout. La loi sur la Banque de France a été modifiée pour satisfaire cette façon de procéder. Le règlement, l'entente de Lisbonne puis l'entente de Maastricht qui forme l'Union européenne tient compte de ça. Il dit qu'il est obligatoire pour les membres de l'Union européenne d'emprunter à des banques privées. Puis leurs banques nationales vont financer les banques privées. La conséquence de ça, c'est que tous les pays se sont endettés au-delà du raisonnable. Si tu regardes les courbes, les dettes ont augmenté de façon quasiment exponentielle. Et en même temps, on a inventé la monnaie plastique, puis les cartes de crédit. Alors, tous les individus se sont endettés au-delà de ce qui est raisonnable, puis les prêts à la consommation, puis on emprunte, tu sais, on emprunte pour acheter sa voiture, on emprunte pour acheter sa maison, on emprunte pour acheter son frigidaire, on emprunte pour acheter, puis on emprunte pour acheter l'épicerie, tu vois, puis on emprunte, puis on paye pas, puis donc il y a des taux d'intérêt complètement ahurissants de 20%. Qu'on paye. Donc, tout le monde est endetté. Et qui sont les bénéficiaires de cet endettement? Ce sont les banques. Quand je dis banque, je veux dire banque et toute la superstructure financière qui prête. Puis c'est encore pire que ça, parce qu'avec la technique bancaire que l'on appelle le « fractional reserve », les banques privées ont le privilège, le pouvoir de créer de l'argent de toutes pièces. Les banques prêtent 10 fois leurs avoirs. 10 fois, c'est peut-être 15 fois, c'est peut-être 12 fois, je ne sais pas. C'est un secret bien gardé, le ratio. Mais en 2008, là, l'une des causes de crise financière planétaire, c'est que des sociétés financières ont engagé de l'argent bien au-delà de leur capacité de payer. Puis s'il y avait un run, comme on dit, une course pour que tous les créanciers se présentent en même temps à la banque pour retirer leurs billes, bien, la banque ne pourrait plus, puis devait faire faillite. C'est ce qui s'est produit. Alors, vous voyez, il y a un système qui fait en sorte que si tout le monde aujourd'hui payait ses dettes, le système imploserait. Le système, il est complètement verrouillé au profit de ces gens qui sont super puissants et super riches, qui mentent à tour de bras, 24 heures par jour, tous les jours, à travers tout la GAFA et tous les réseaux sociaux, à travers tout le système. Tu vois, les mensonges, ils sortent au rythme de à peu près un mensonge tous les 10 minutes à travers la planète. C'est ahurissant comme taille du système, et c'est ce que mon livre essaie de démontrer. Mais tout ça, ça peut se défaire si les politiciens à Ottawa, puis à Paris, arrêtaient de ramper en dessous de leur chaise, puis se mettaient à passer une réglementation pour encadrer, tu vois, les abris fiscaux, tu vois. L'OCDE a fait un travail absolument remarquable, a fait en sorte que pourrait instituer une taxe minimum de 15 %. Tarif-là, ça devrait être une taxe de 50 %. Mais là, ils l'ont mis à 15 % pour ne pas effrayer les capitalistes.
D'accord. C'est ce que j'allais dire, bon. Lisant votre essai, je vous que c'est plutôt déprimant. Ce que j'aimerais mentionner aussi, c'est que dans votre essai, vous suggérez, justement, vous avez commencé à en parler, que vous proposez des idées pour s'en sortir. J'aimerais que vous élaboriez là-dessus, juste qu'on finisse sur une note un peu plus optimiste, à savoir qu'il reste, il y a au moins un petit peu d'espoir.
Bien, il faut commencer non seulement à tenir des beaux discours, non seulement à signer des ententes internationales. Ce matin, la COP 15 pour la biodiversité, apparemment, a signé un très beau texte, une entente internationale pour protéger 30 % du territoire planétaire, pour protéger la biodiversité. Très bien. Puis, il y a aussi des ententes pour stopper le dérèglement du climat. Très bien. Encore faut-il le faire, tu vois? C'est le passage à l'action qui manque. Hein? Là, pour faire plaisir à une population de quelques milliards de résidents terrestres et qui commence à avoir peur pour le vrai, hein? On signe des ententes, mais il n'y a rien qui suit derrière, ou très peu. On s'en rend compte tous les jours. Prends le Québec. Québec, en principe, fait a de l'électricité en masse, puis il devrait y avoir toute sa flotte de transport, les camions, les voitures particulières, etc., devrait être à l'électricité parce que c'est produit sans pollution véritable. Il y a un peu de pollution, mais beaucoup moins que si c'est de la pétrochimie. Mais c'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'on continue à vendre des grosses voitures, des vues qui polluent à tour de bras. Puis on t'explique que, finalement, l'industrie automobile, qui échappe à tout contrôle parlementaire, c'est l'industrie américaine, puis même l'industrie japonaise aux États-Unis, puis même l'industrie allemande aux États-Unis. Bon, cette industrie-là, ils veulent vendre des chars aux Américains qui veulent des gros véhicules, puis le leftover, ce qui reste, on passe au Canada. Puis les politiciens à Ottawa, le Parlement, disent OK. Donc on fait le contraire de ce qu'il faut faire. Et c'est ça qui est vraiment désolant. Mais si on faisait, tu sais, les bonnes choses. Quand je dis faire, c'est pas juste faire des discours, c'est pas juste passer des votes au Parlement, c'est changer.
Le système est tellement... Le système tel qu'il est en ce moment est tellement... nous dirige tellement qu'il faut trouver une manière différente de penser. Je suis le président de l'association humaniste. Alors, pour moi, si on met l'humain au centre de tout ça, ça devrait être le premier pas vers un changement de paradigme, disons.
J'espère que tu as raison. J'espère que tu as raison. J'espère que, quelque part, à un moment donné, des détenteurs d'autorité, des politiciens qui sont à l'exécutif, ben, c'est eux qui ont théoriquement l'autorité, les premiers ministres, les présidents, la Maison-Blanche. Ces gens-là ont des pouvoirs, puis il suffirait de le faire. Mais tu as dans leurs entourages des technocrates, des conseillers, des lobbyistes qui disent, et ces gens-là avec beaucoup d'autorité et avec des raisonnements, si tu le regardes dans la logique étroite et triquée de leur système, il faut créer des jobs. Hein? Puis si tu veux créer des jobs, ben, même si tu as une pénurie d'emplois, il faut créer des jobs. Puis créer des jobs, c'est qu'il faut que des compagnies viennent s'installer. Puis les compagnies qui sont immensément, comme Glencore, par exemple, là, qui sont immensément riches, qui font des milliards de profits par année, exigent des règlements laxistes en matière d'environnement. Parce que, écoute, mon vieux, si on n'a pas ça, on s'en va en Colombie ou on s'en va au Mexique, où là, on va nous satisfaire parce qu'ils ont plus besoin de jobs que vous.
Oui, mais c'est le
mais c'est du chantage pur et simple.
Pas la face cachée, la mauvaise face de la mondialisation.
Ben oui, c'est sûr. C'est absolument sûr.
Je vous écoute parler, c'est un petit peu... c'est un peu déprimant pour l'humanité, je pense. Je trouve. J'aimerais qu'on...
Mais il faut pas se décourager.
Non, j'ai confiance davantage en l'humanité qu'au gouvernement. Mais évidemment, des changements de cette amplitude-là, ça fera pas... En claquant des doigts, ça va être un long processus, je pense, long et ardu. J'aimerais terminer, si vous voulez, je voulais juste vous reparler du prix Condorcet des Saules qui vous a été attribué cette année. Pour ceux d'entre vous qui l'ignorent, le prix Condorcet des Saules est attribué chaque année à un individu ou à un groupe qui ont contribué à la défense de la laïcité, de la liberté de conscience. Le prix est ainsi nommé pour honorer la mémoire du marquis de Condorcet, un philosophe du siècle des Lumières et l'un des rédacteurs de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et de Louis-Antoine des Saules, activiste, essayiste et homme politique québécois. Est-ce que vous pouvez rapidement nous parler de votre implication pour la laïcité, ce qui vous a amené à vous engager là, dans cette voie?
C'est à travers le biais de la liberté de conscience. Moi, je pense que une société, c'est l'œuf et la poule, là. C'est une société démocratique ne peut pas être vraiment démocratique si elle n'est pas laïque. Une société laïque doit absolument être démocratique. Les deux notions sont liées. Et... si je veux protéger la liberté de conscience, je protège la laïcité, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est à travers ça, je me suis impliqué à la direction à la fois de l'Association humaniste et du Mouvement laïque québécois, dès que j'ai pris ma retraite professionnelle. Parce qu'avant, je pratiquais mon métier qui est architecte et urbaniste. Et il y avait comme des empêchements professionnels pour faire mon métier et militer au sein de ces associations pour de telles causes. Mais dès que j'ai pris ma retraite, je me suis impliqué là-dessus et on a accompli... beaucoup de choses. J'étais sur le petit groupe là, qui a piloté avec Luc Allègre tout la saga de la contestation qui s'est terminée en Cour suprême contre le maire Tremblay de Chicoutimi pour mettre fin à la prière catholique ou prière de n'importe quelle religion, dans le fond, Lors d'assemblées publiques démocratiques, et la Cour suprême du Canada, de façon unanime, nous a donné raison et a décrété le principe que personne ne peut aller à l'encontre de la neutralité religieuse de l'État. C'était une énorme victoire pour la laïcité. Et dans ce cas-là, je dois dire que les dernières statistiques nous indique que l'évolution de la société canadienne et québécoise va dans le bon sens. Il y a de moins en moins de personnes qui pratiquent des religions, de moins en moins de personnes qui adhèrent à des croyances qui finalement n'ont pas d'allure, s'en remettent à des visions, si vous voulez, laïques, des visions où la laïcité est la partie prenante. Les derniers bastions contre la laïcité, c'est une gang de mandarins, d'éditorialistes de la presse anglophone du pays, puis des conseils municipaux un peu partout, qui ont décrété qu'ils étaient contre la laïcité et pour la liberté de religion. Ils oublient toujours de parler de la liberté de conscience. Qui sont pour la liberté de religion et injurient, insultent systématiquement les tenants de la laïcité. Moi, je soupçonne que cette hargne contre la laïcité, puis la contestation de la loi 21 est un très bon exemple, c'est beaucoup relié à la hargne contre les francophones canadiens ou les Québécois, c'est quand au Canada, on est pour la diversité, sauf lorsqu'elle est exprimée par les Québécois. Tout le monde doit être diversifié au Canada. Justin Trudeau fait des discours en disant que la valeur fondamentale des Canadiens, c'est la diversité. C'est chacun a droit de vivre comme il veut. Mais si les Québécois font un geste, posent un geste politique, votent une loi qui va à l'encontre du multiculturalisme canadien, alors à ce moment-là, les Québécois, ils sont des racistes, des intolérants, ils sont tout ce que vous voulez, puis il faut les combattre, puis jusqu'en Cour suprême qu'il le faut, puis bon, etc. On va même changer la Constitution. Moi, je pense que la lutte contre la laïcité au Canada anglais, c'est beaucoup du Québec bashing. Beaucoup du Québec bashing, c'est-à-dire qu'on est contre la laïcité, pas parce qu'on est contre la laïcité si on se met à réfléchir un peu là-dessus, mais parce que la laïcité est portée par la société québécoise, hein, qui est francophone, qui veut se distinguer, qui parle une langue différente, qui a des institutions qui ont des variantes là-dessus, qui vont décider de ne pas porter le serment au roi d'Angleterre. Vous voyez la différence là-dessus. Bon, il y a bien des anglophones dans l'Est du Canada qui n'ont rien à cirer avec le roi d'Angleterre, mais les mandarins, qui sont les leaders d'opinion là-dessus, disent qu'ils doivent être contre la laïcité, contre le Québec, pour la monarchie, etc. Si tu creuses, puis je répète ça parce que je suis convaincu que c'est ça, la hargne contre la laïcité au Canada anglais, c'est une hargne contre le Québec. C'est du Québec bashing dans ce que tu as de pire, hein, parce que ça attaque collectivité indistinctement des nuances et ça attaque aussi les institutions. Voilà.
Ben merci. En conclusion, j'invite très fortement tout le monde à lire votre essai qui a été publié par les presses de l'Université Laval. Il est disponible sur Amazon. Je vais mettre le lien dans la description du balado. Alors, je vais terminer, Michel, par te dire un grand merci d'avoir pris le temps de nous parler.
Un petit détail pratique. On peut commander le livre tout simplement en communiquant avec les presses de l'Université Laval, si on ne veut pas passer par Amazon.
Pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés à en savoir plus sur l'Association humaniste du Québec, vous pouvez visiter notre site assohum.org, c'est A-S-S-O, hum.org ou encore notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse courriel info@commercial.org. Merci et nous vous donnons rendez-vous au prochain balado humaniste.